2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Avec vous. C'est de la paix dont on va parler ce matin. Et il existe au moins 3 dimensions en rapport avec la paix. Il y a la paix spirituelle, il y a la paix émotionnelle, et il y a encore la paix relationnelle. Ou, si nous préférons, il y a la paix avec Dieu, la paix de Dieu, et la paix avec les autres. La paix avec Dieu, c'est la paix entre Dieu et nous. Dans Romains au chapitre 1er, verset 5, l'apôtre écrit « Étant donc justifiés avec Dieu, nous avons la paix avec lui par Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, plus précisément, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Paix entre Dieu et l'homme obtenue par la réconciliation grâce à Jésus qui a payé notre dette en s'offrant sur la croix, comme nous l'avons rappelé à travers la présidence apportée par Aurélien ce matin. Et puis il y a la paix avec Dieu, la paix de Dieu, deuxième forme de paix. La paix de Dieu, c'est la paix intérieure, la paix avec nous-mêmes. Cette paix dont Jésus parle dans les évangiles, au sujet de laquelle il dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Pas une paix que le monde propose, mais une paix, comme l'apôtre Paul l'a définie, qui dépasse toute intelligence. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix surnaturelle, cette paix qui est présente dans l'adversité, cette paix qui est présente malgré les épreuves, malgré les difficultés, cette paix qui est surnaturelle, oui, qui dépasse tout entendement humain. Et alors, il y a enfin cette troisième forme de paix, et c'est cette paix-là qui va nous intéresser ce matin, puisque nous avons déjà eu l'occasion, lors de messages précédents, d'aborder les deux premières formes de paix. La troisième facette liée à la paix, c'est la paix avec les autres, la paix relationnelle. Et dans Marc, au chapitre 9, verset 50, l'évangéliste écrit « Vivez en paix les uns avec les autres. Vivez en paix les uns avec les autres. » Et c'est cette forme de paix dont nous allons parler ce matin. Vivez en paix les uns avec les autres. C'est tellement important. Notre Dieu se révèle comme étant le Dieu de paix. Romains 15, verset 33, par exemple, pour citer un verset biblique. Jésus est appelé le prince de paix. Souvenons-nous de la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 9, verset 6. Jésus, prince de paix. L'évangile est un évangile de paix. Éphésiens 6, verset 15. Le royaume de Dieu est encore appelé aussi un royaume. Le royaume est le royaume de paix. Le royaume de paix, et l'apôtre Paul écrit à ce sujet en Romains 14, verset 17, ceci, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Le royaume de Dieu est un royaume de paix. Alors le royaume de Dieu est, comme certains le qualifient parfois, appelé le royaume du déjà et du pas encore. Le royaume du déjà parce qu'il a été instauré lors de la première venue de Jésus-Christ. En Luc, verset 17, chapitre 17, verset 20, eh bien Jésus, en s'adressant à ses interlocuteurs, à son auditoire, dit « Le royaume de Dieu est parmi vous ». Donc, c'est le royaume du « déjà », mais c'est aussi le royaume du « pas encore », parce qu'il n'est pas encore pleinement accompli, et ne le sera que lors du retour, lors de la deuxième venue de Jésus-Christ. La parabole du grain de moutarde ou du grain de sénévé illustre d'allure bien cette réalité. En Matthieu, chapitre 13, verset 31 et suivant. En tant que chrétiens, nous sommes membres, nous sommes citoyens de ce royaume de Dieu. Et nous sommes aussi, en tant que membres, en tant que citoyens du royaume des cieux, du royaume de Dieu, appelés à vivre en paix dans nos relations. Nous sommes des agents de paix dans nos relations mutuelles. Il y a des gens partout, à gauche, à droite, il y a des gens qui sont partout dans nos vies, et notre relation avec ces personnes peut être soit une source de bénédiction, de joie, ou bien soit une source de souffrance et de douleur. D'où l'importance d'avoir des relations établies, construites, bâties sur le fondement de la paix. La paix relationnelle provient de la paix de Dieu, qui elle-même procède de la paix avec Dieu. Dieu remplit nos cœurs, Dieu inonde nos cœurs de sa paix, la paix de Dieu, et cette paix déborde au-delà de nous, dans nos rapports avec ceux qui nous entourent. La paix de Dieu, tellement importante, la paix relationnelle. La paix relationnelle implique aussi bien les membres de nos rapports avec les membres de notre famille, la paix entre les époux, la paix entre les conjoints, que la paix entre les parents et les enfants, ou encore que la paix entre les frères et sœurs. Acte 7, verset 26. La paix relationnelle implique aussi les rapports entre chrétiens, entre les membres de l'Église. Éphésiens 4, verset 3 et 1 Thessaloniciens 5, verset 13. Ou encore, elle implique la paix avec les gens de la société, avec les gens du dehors, nos collègues, nos voisins, le boulanger, le garagiste. Cette paix implique aussi nos rapports avec les gens de la société. Avec toutes ces personnes, Dieu me demande de vivre en paix. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que je suis un artisan de paix ? Suis-je un artisan de paix ? Quelqu'un qui sème la paix autour de lui ? Quelqu'un qui communique son esprit de paix, de tranquillité, de quiétude, son esprit de douceur ? Établir un climat de paix dans nos relations mutuelles, dans nos rapports mutuels, devrait être l'une de nos préoccupations principales. L'apôtre Paul présente ce principe comme étant un impératif, un commandement. Vivez en paix avec tous. C'est aussi un comportement qui implique une forme de dynamisme, une forme de volonté de notre part. Dans Romains, au chapitre 14, verset 19, l'apôtre Paul, encore lui, nous encourage à rechercher la paix. Rechercher ce qui contribue à la paix. En Éphésiens, au chapitre 4, verset 3, l'apôtre, encore lui, nous dit « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Vous efforçant. Et puis, le psalmiste, quant à lui, au chapitre 34, verset 14, nous dit « Éloigne-toi du mal et fais le bien, et poursuis la paix. » Rechercher, s'efforcer, poursuivre la paix. Autant de verbes d'action qui démontrent, finalement, clairement, la volonté que nous devons afficher pour essayer d'établir des relations paisibles autour de nous. Nous pouvons influencer les autres à choisir la paix en étant affables, aimables, courtois, prévenants, gentils avec nos collègues, par exemple, en les conseillant, en ne prenant pas part aux rumeurs, en ne les considérant pas comme des rivaux, mais plutôt comme des partenaires de travail. Vivre en paix, c'est faire preuve d'estime, c'est faire preuve de respect, être à l'écoute, accepter les différences, bannir tous les préjugés, quels qu'ils soient. Vivre en paix, c'est encore maîtriser son agressivité, son impulsivité, prononcer des paroles de grâce, des paroles d'encouragement, faire preuve d'un esprit de pardon et de réconciliation. On sait combien les relations mutuelles peuvent être fragiles. Un mot peut tout détruire. D'où l'importance de développer un esprit de pardon, un esprit de réconciliation. Et il y a, je me demande si ce n'est pas un de tes compatriotes, tiens frère, il s'appelle Talal Gossen, tu connais? C'est un Libanais. Je ne sais pas s'il est chrétien, mais ce qu'il a dit là, je ne peux que l'acquiescer. Il dit, eh bien, vivre en paix avec soi-même et les autres, c'est pardonner sans compter. Vivre en paix avec soi-même et avec les autres, c'est pardonner sans compter. S'il n'y a pas la loi du pardon qui est appliquée au niveau de nos relations mutuelles, alors la paix sera fortement compromise. Vivre en paix avec l'autre, ça ne signifie pas que l'autre ne peut pas être en désaccord avec ce que je pense. Je peux avoir une divergence de vue avec quelqu'un, sans pour autant me laisser entraîner dans un conflit, et sans pour autant considérer que celui qui pense différemment de ce que moi je pense, soit mon ennemi. Soyez en paix, insiste l'apôtre Paul, soyez en paix avec tous les hommes, en Romains 12, verset 18, mais il poursuit, vous connaissez la suite, soyez en paix avec tous les hommes, pour autant que cela dépende de vous. Et ça a toute son importance. Ça a toute son importance. Pourquoi ? Eh bien, parce que pour rétablir des relations paisibles, il faut être deux. Je ne peux pas construire la paix à moi seul. Les relations sociales sont bilatérales. Vivez en paix avec tous les hommes pour autant que cela dépende de vous. Il est des personnes, certaines personnes qui sont imprégnées de haine, imprégnées d'amertume, imprégnées de fief, de mépris, de querelle. Et il est difficile et parfois impossible, il faut le reconnaître, d'établir un climat de paix avec ce genre de personnes. Et le psalmiste, au psaume 120, verset 6, rapporte ceci. « Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. » Il existe des comportements, des attitudes qui sont autant d'obstacles à ce que la paix s'installe dans les relations mutuelles. Et Paul en énumère quelques-uns de ces comportements lorsqu'il écrit à Timothée dans sa deuxième lettre au chapitre 3, versets 1 à 5, un passage qui est en fait une parole prophétique en rapport avec les temps eschatologiques dans lesquels nous vivons plus que probablement aujourd'hui. Et il écrit « Sache que dans les derniers temps, il y aura, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, hautains, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, emportés, enflés d'orgueil, etc. » Des comportements qui vont à l'encontre de la vie relationnelle paisible. Et Paul termine ce passage en écrivant à peu près la même chose que ce qu'il a écrit dans le verset que nous avons lu précédemment. Éloigne-toi de ces hommes-là. Prends tes distances. Celui qui souhaite la paix n'est pas obligé d'être le souffre-douleur de celui qui la refuse. Il ne doit pas se laisser continuellement brimer. Dès lors, comme le souligne l'apôtre Paul, que, comme nous venons de le lire, de le rappeler, eh bien, mieux vaut pour cette personne qui essaye d'établir la paix, mais avec laquelle il n'y a pas moyen, dans la situation qu'il rencontre, il n'y a pas moyen de rencontrer la paix, il vaut mieux prendre ses distances. Il vaut mieux s'éloigner. Vivez en paix avec tous les hommes, pour autant que cela dépende de vous. Alors, si certaines personnes ne parlent pas de langage de la paix, mieux vaut les éviter. Mieux vaut rester superficiel avec elles. C'est comme ça. Éloigne-toi de ces hommes-là, précise l'apôtre Paul. Alors, quels sont d'autres ennemis de la paix, hormis ceux que nous venons de rappeler, de mentionner? Quels sont les autres ennemis de la paix, selon le livre des Proverbes? Eh bien, la haine, comme nous l'avons déjà mentionné, provoque les disputes et empêche la paix. Proverbes 10, verset 12. L'orgueil, lui aussi, provoque des disputes, des querelles, et empêche l'épanouissement, le développement de la paix. La colère provoque, elle aussi, les disputes, et empêche la paix. Proverbes 15, verset 18. Ne pas se sentir libre de parler ouvertement parce qu'on appréhende la réaction de quelqu'un d'impulsif. Ça existe. La fausseté, l'hypocrisie, la duplicité provoquent les disputes et empêchent la paix. Proverbes 16, verset 18. Et enfin, les inepties, les discours absurdes, les propos hors de sens provoquent également des disputes et empêchent la paix de s'exprimer. Proverbes 18, verset 6. Alors, une attitude charnelle est un obstacle à la paix, c'est vrai. Tout ce qui provient de la chair constitue, sont des ennemis à l'expression de la paix au niveau relationnel. Tandis que la vie par l'esprit, quant à elle, induit la paix dans les relations. Alors la paix, comme nous le savons, est une des facettes du fruit de l'esprit. Donc de Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, dont nous avons rappelé l'importance encore ce matin, mais aussi la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi, etc. Une des facettes du fruit de l'esprit, et c'est la paix. C'est la paix. Donc, si nous restons connectés à Dieu, si nous restons en communion avec Dieu, alors nous serons pleinement des artisans de paix. Des chrétiens, des hommes et des femmes qui favoriseront des relations paisibles autour de nous. Vous savez ce que c'est que le prix Nobel de la paix, hein ? Ben oui. Chaque année, eh bien, il y a une récompense internationale qui est remise à la personne que l'on considère ayant été la personne qui a le plus œuvré pour la paix dans le monde. En 2016, je lisais ça récemment, eh bien, celui qui a remporté le prix Nobel de la paix a gagné 820 000 euros. Ça fait un beau château, un beau petit château. Et sans compter, bien évidemment, les conférences rémunérées apportées par le Nobel. Parmi ceux qui ont remporté le prix Nobel de la paix, on connaît entre autres Gandhi, le Dalai Lama, Mère Teresa, aussi Albert Schweitzer et comment il s'appelle encore, Martin Luther King, entre autres, pour ne citer que. Cependant, en tant que disciple de Jésus, artisan de paix, procurant la paix, eh bien, Jésus nous promet une récompense plus belle et plus grande encore. À tous ceux qui ont œuvré pour restaurer la paix, pour rétablir les relations de paix. Le livre des Proverbes, au chapitre 12, verset 20, parle de conseillers de paix. À tous ceux qui ont entretenu la paix, qui ont marché dans la paix, Jésus promet une récompense plus belle, plus prodigieuse encore, à savoir, on la trouve dans les Béatitudes de, je crois que c'est Matthieu 6, verset 9, dans la 7e Béatitude, « Heureux ou bienheureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Alors, pas seulement enfants, comme tu l'as rappelé à travers l'épître que tu nous as, de la première épître de Jean, à laquelle tu as fait référence ce matin, Aurélien. Pas seulement enfants, qui, finalement, enfants, ça vise une catégorie de personnes. C'est quelque chose de global, mais fils, ce qui implique une intimité, une relation filiale plus importante. Dieu qualifie ceux qui ont œuvré sur la terre pour la paix comme étant ses fils. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils, parce que les fils ont un trait de caractère qui ressemble à celui de leur père, à savoir le Dieu de paix. Celui qui œuvre pour la paix est un fils de Dieu, du Dieu de paix. Alors évidemment, c'est un privilège immense que d'être appelé fille de Dieu et fils du Dieu de paix. Pour conclure, selon Aletheia, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site chrétien, le conseil qui revient le plus fréquemment dans la Bible, eh bien, c'est celui de vivre en paix. Il paraîtrait qu'il revient 365 fois. Chaque jour de l'année, nous sommes en quelque sorte invités à rechercher la paix dans nos relations mutuelles. Chaque jour de l'année. Si nous ne vivons pas en paix dans nos rapports mutuels, qu'est-ce qui nous différencie des enfants de colère qui nous entourent? Nous vivons dans le royaume de Dieu, qui est un royaume de paix, et Dieu demande que ses enfants, que les citoyens que nous sommes du royaume de Dieu, vivent des relations basées, fondées sur la paix. Alors si la paix ne caractérise pas nos relations, mais qu'est-ce qui nous différencie des autres personnes? Des enfants de colère? Avec toutes ces exhortations à vivre en paix, Paul n'envisage certainement pas que ses enfants soient à l'origine ni n'entretiennent des situations de conflit. Il n'y a pas malheureusement de plus grand désastre et de plus grand contre-témoignage qu'une église qui vit, qui entretient les situations conflictuelles. Il n'y a pas de plus grand contre-témoignage qu'une église qui ne recherche pas un climat de paix au niveau de ses relations. Alors, quelques questions de réflexion pour clôturer. Est-ce que je suis un havre de paix pour les autres? Est-ce que mon couple, est-ce que ma famille est un havre de paix? Est-ce que l'Église est, comme elle devrait l'être, un havre de paix où il fait bon vivre, où il fait bon se rendre, où un bien-être est ressenti et où un terrain propice favorise également le salut des âmes? Alors que Dieu nous donne de vivre en paix et que nous puissions faire nôtre ce verset d'introduction que nous avons lu tout à l'heure au reste frères. Soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. C'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, et que son règne ainsi, que son royaume puisse ainsi pleinement être une lumière sur cette terre qui attire les gens, les personnes qui nous entourent, afin qu'ils rencontrent le Prince de paix. Je vais profiter de la main bienveillante qui a déposé une petite bouteille d'eau ici. Ben oui.
Ah, j'ai
une annonce aussi. C'est toi, Aurélien, qui va faire les annonces. Hein. Dimanche prochain, dimanche un petit peu particulier, et le culte prendra probablement une orientation un petit peu différente, puisqu'on aura quatre baptêmes. Quatre baptêmes, quatre personnes. Vous les connaissez peut-être, peut-être pas. Mais maintenant, vous allez les connaître. On va les identifier. Alors, il s'agit de Coralie et d'Anthony, qui passeront par les eaux du baptême, mais encore de Virginie, qui est plus âgée, et qui n'est malheureusement plus des nôtres, mais qui viendra pour l'occasion, afin de passer par les eaux du baptême, et Myriam, ma sœur, qui est là-bas dans le fond. Voilà. Alors, mais on s'en réjouit, hein. On se réjouit de ça, et que le Seigneur les accompagne dans leur témoignage dimanche prochain, et que la nouvelle orientation qu'ils vont prendre devant l'Assemblée puisse encourager les uns et les autres, et puisse aussi leur donner un coup de boost dans leur relation avec le Seigneur.